débutants qui nous écoutent, quelles sont les informations à prendre en compte selon toi pour réussir à pronostiquer le résultat d'un match à la mi-temps et à la fin du match?
Deux choses principalement, les enjeux. J'ai pris trois matchs avec des équipes qui avaient des enjeux, que ce soit pour la descente, que ce soit pour la Coupe d'Europe, et aussi la forme des équipes actuelles.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta réussite, Gérald. On te souhaite de passer un excellent week-end.
Merci à toi, Karine.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL, il est 20h. Ce qu'il faut retenir ce soir de l'actualité avec vous, Charles Ducrot. Bonsoir Charles.
Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous. Les organisations lycéennes appellent à rejoindre la mobilisation étudiante pour Gaza dès lundi. L'Union syndicale lycéenne, l'USL, annonce des blocages dans les lycées via un communiqué. Ils réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Aujourd'hui, plusieurs manifestants qui occupaient Sciences Po Paris, Lille ou encore Lyon ont été évacués par la police. Devant le Panthéon à Paris, une centaine d'étudiants ont manifesté. Aïcha fait partie de ces manifestants évacués de Sciences Po. Pour elle, la détermination reste totale.
C'est la deuxième fois que la police rentre dans notre campus. On est pour la plupart choqués et on continuera la lutte.
Quelle forme va prendre la suite de votre combat?
Alors on ne sait pas encore, on continuera à se mobiliser et on verra. C'est plutôt des événements qui sont spontanés, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne lâchera pas.
Qu'est-ce que l'école doit faire pour que vous cessiez cette lutte?
Accepter à nos demandes, à savoir la mise en place d'un groupe de travail qui investigue sur les universités partenaires israéliennes et sur les entreprises partenaires qui contribuent à ce génocide.
Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. Un jeune homme de 18 ans tué à l'arme blanche à Bordeaux. Cela s'est passé dans le quartier des Aubiers, un quartier sensible au nord de la ville. La victime était connue pour des délits de droit commun selon la police. Les circonstances restent à éclaircir. Un tiers des produits non conformes ou dangereux chez les tatoueurs. La répression des fraudes révèle que les teneurs en plomb sont trop élevées dans certaines encres, du matériel mal ou non stérilisé. Les tatoueurs qui ne respectent pas les normes exposent leur clientèle à des risques d'infection. La tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, Manon Aubry, appelle tous les candidats à refuser leur rémunération à côté de leur fonction de député s'ils sont élus. Un quart des députés européens ont un emploi annexe en plus de leurs indemnités d'élus, écrit la députée européenne. Et une idée qui fera peut-être réagir dimanche pour un grand jury exceptionnel sur RTL et Paris Première, de midi à 14h. Le premier grand débat réunissant les sept principales têtes de liste aux européennes. Débat retransmis également à 18h sur LCP. La météo pour demain, des pluies circulent des côtes atlantiques vers les régions du centre et du nord-est. Près de la Manche, un temps plus calme avec de rares averses. Ce sera plus sec dans le sud-est avec quelques éclaircies. Pour les températures demain matin, 7 degrés pour Aurillac, Lille ou encore Cherbourg, 8 à Paris et Lyon, 10 à Bordeaux et Montpellier, 12 à Nice et 16 à Biarritz. L'après-midi, les températures continuent de grimper. Il fera 13 à 18 degrés pour la moitié nord, 18 à 21 pour la moitié sud. Les courses enfin en nocturne ce vendredi, c'est à Vincennes, départ du Quintet dans un quart d'heure. Les pronostics de Dominique Cordier, le 16, l'As, le 2, le 4, le 7, le 12 et le 14, l'outsider d'RTL, le 4, Ulysse Digéo.
Merci Charles Ducrot, on retrouve à 21h, à tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, il est entré dans le studio, mais Eric Silvestro, une chanson pour vous, Eric,
ah,
et
la chanson du vendredi soir.
Ouais, la chanson du vendredi.
Ah ça, je connais, Patrick Hernandez.
Ben oui, et pourquoi?
Alors, Patrick Hernandez, Born to Be Alive.
On sait Jean-Michel à peu près.
Jean-Michel à peu près, donc Hernandez.
Hernandez.
Donc Lucas Hernandez.
Lucas,
blessé cette semaine avec le Paris Saint-Germain.
Bien sûr. Donc il est Born to Be Alive, mais il a quand même le ligament croisé.
Il est Born to, pas de morale surtout. Parce que là, le pauvre, vous vous rendez compte, il avait déjà eu le ligament croisé de l'autre genou pendant la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Et là, c'est le genou gauche, il va rater l'Euro.
C'est pas son année.
Ouais, Paris Saint-Germain jouera mardi le match retour, on le rappelle, contre Dortmund. Et ce sera sur RTL, en espérant se qualifier pour la finale.
Bon week-end,
on ira danser après.
Ouais, on ira danser.
Viendra avec moi?
Oui, ah oui.
S'il y a qualification pour la finale, on va danser,
Je vous promets.
Allez,
on vous promets.
A tout de suite pour RTL.
Vivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,79€.
Les avocats ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, l'avocat est à 60 centimes la pièce.
Quoi ? 60 centimes la pièce en lot de 3 ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Kenya, Pérou, Brésil, Afrique du Sud ou Israël selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Bonjour, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire.
Demain, dans Entrez dans l'histoire, nous entrons dans les ordres au service du cardinal. Sa robe est écarlate. Il a inspiré les plus grands auteurs du 19e siècle, de Victor Hugo à Alexandre Dumas, qui en ont fait le Dark Vador de la littérature française. Richelieu, c'est demain à 13h30 dans Entrez dans l'histoire sur RTL.
Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.
Et vous savez quoi ? Ce podcast est déjà disponible sur RTL.fr et sur l'application RTL.
RTL Foot,
c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et de passer encore cette fin de semaine et ce week-end en votre compagnie pour la 32e journée de Ligue 1. On a vécu beaucoup d'émotions avec la Ligue des Champions et la Ligue Europe, les demi-finales du Paris Saint-Germain et de Marseille cette semaine sur l'antenne de RTL. On va poursuivre, on va garder le ballon dans notre camp, on va essayer d'aller marquer des buts pour cette 32e journée de Ligue 1. À mes côtés, Xavier Domergue et Karine Galli, évidemment, comme tous les vendredis et les samedis soirs. Salut Xavier.
Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Et salut ma Karine.
Salut Eric, salut à tous.
Nous aurons non pas un, mais deux commentateurs ce soir avec nous sur l'antenne de RTL et on s'en félicite. Le premier qui prendra la parole ce soir, c'est Patrick Hisson à Toulouse, car le match Toulouse-Montpellier, match d'ouverture de cette 32e journée, a débuté tout à l'heure à 19h. On vient de reprendre la seconde période. Quel est le score ? Et surtout, on a l'impression qu'on a vécu une belle première mi-temps. Patrick, tu vas nous raconter tout ça.
Oui, ça a ronronné pendant 27 minutes jusqu'à un moment magique avec ce but stratosphérique de Savanier qui a réveillé ce match. Une reprise de volée pleine lucarne. Il était à l'entrée de la surface de réparation et ce but a réveillé également les Toulousains qui, dans la foulée, ou rapidement en tout cas, ont égalisé par Dalinga, le buteur néerlandais du TFC. Donc ça nous a valu un dernier quart d'heure de la première mi-temps de très bonne facture et c'est reparti depuis 4 minutes en seconde période.
Avec une équipe de Toulouse dominatrice quand même, mais ce but de Savanier, je peux dire, il a fait bondir de sa chaise Xavier Domergue, l'esthète des beaux gestes. On va y revenir évidemment. On espère qu'il y aura plein de beaux gestes et plein de buts ce soir à Bollard. Ce sera notre grande affiche à partir de 21h avec Samuel Duhamel. Bonsoir mon Sam.
Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Ouais, lance en difficulté, hein.
Lance en difficulté, Lorient aussi, tu me diras. Oui. Et on a également un arbitre, Monsieur Pignard, qui est en difficulté. Donc on part sur des bases assez moyennes. Et on
alors, soit c'est la soirée de la loose, soit c'est la soirée de la reconquête pour un, pour l'autre.
Donc Monsieur Pignard a été puni et il a le droit à nouveau d'arbitrer.
D'un match en prime time à 21h.
Voilà.
Ouais, il a été puni une journée.
Ah oui, parce que Monsieur Borghini, c'était une bonne idée de dire oralement.
C'est comme quand tu punis un enfant. Et qu'au bout de 5 minutes, ça te fait trop mal au cœur de l'avoir puni et que tu lèves la punition. Je connais ça, je suis un spécialiste de ça. Tu sais, tu dis, ah non, mais là, c'est fini. Voilà, tac, tu es dans ta chambre. Bon, et puis au bout de 5 minutes.
Ce qui est bien, c'est que vos enfants vous connaissent par cœur, donc ils savent très bien qu'au bout de 5 minutes, il y a ce final.
Oui, ma femme aussi me connaît par cœur et je prends une deuxième soufflante en général derrière. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est la vie. On va essayer de passer une bonne soirée tous ensemble, 20h, 23h. Toulouse-Montpellier et Lens-Lorient, donc les compos, on va les découvrir dans quelques minutes. Les paris avec nos partenaires de Winamax et puis on se prolongera également et on se projettera sur la suite de cette journée de Ligue 1. Ce sera demain, il n'y a pas de match dimanche, hein, vous le savez, dimanche 5 mai, en hommage aux victimes de Furiani. On ne joue pas au foot en France le 5 mai, donc il n'y aura aucun match dimanche. Du coup, il y aura plusieurs matchs demain avec des grosses affiches, notamment Brest-Nantes qui sera notre intégralité à 21h. On en parle tout à l'heure. Soyez les bienvenus, Spencer et Léa sont là pour nous accompagner à la réalisation. RTL Foot, c'est parti jusqu'à 23h.
Eric Silvestro,
RTL Foot.
Avant de découvrir les compos de Lens-Lorient, coup d'envoi à 21h de ce match de la 32e journée de Ligue 1, on part à Toulouse. On joue depuis 5 minutes en seconde période entre Toulouse et Montpellier. Patrick, ils sont un but partout donc. Raconte-nous tout ce qui s'est passé en première mi-temps.
Alors, en première mi-temps, comme je vous le disais tout à l'heure, pas grand-chose durant la première demi-heure. Et puis là, il y a eu ce moment vraiment extraordinaire. Ce centre de Silla au second poteau dans la surface de réparation, allez, une quinzaine de mètres, un petit peu moins peut-être. Et là, instantanément, la reprise du droit de Savanier qui est allé se loger dans la lucarne opposée. Un but, vraiment le but peut-être et certainement de cette journée de championnat qui débute. Il y en aura d'autres, on l'espère, mais celui-là, vraiment, il était fabuleux. Et dans la foulée, les Montpelliérains d'ailleurs qui n'avaient rien montré durant cette première demi-heure ont encaissé un but avec une tête de Talinga au départ, c'était un centre de la gauche de Diarra, repris dans un premier temps par Caceres et qui rebondit, qui revient sur la tête de Talinga qui bat sans problème Dimitri Berthaud qui s'est multiplié en fin de première période pour sauver son équipe sur encore une fois une tête de Talinga sortie d'une manchette sous sa barre, la barre qui avait sauvé également et le poteau qui avait sauvé les Montpellier à deux reprises durant cette première mi-temps. Grâce à Berthaud, eh bien, les Toulousains ont été obligés de revenir au vestiaire avec ce score d'un partout. Il y a eu aussi un but accordé à Bouclal. C'est vrai, mais alors vu des tribunes, la faute semblait évidente. Une faute de Bouclal sur Couillaté, sur le défenseur montpelliérain. Et après arbitrage vidéo, alors que ce but avait été validé, ce but a été finalement annulé. Ça nous fait un partout. Les Montpellierains qui semblent un petit peu plus remontés en ce début de seconde période.
Voilà pour le résumé de la première période de Patrick Hisson. Désormais la minute hommage, la minute analyse technique, la minute plaisir de Xavier Domergue sur le but de TJ Savanier. Montpellier, comme l'a dit Patrick, n'avait rien montré. C'était le premier centre du match, la première frappe du match. Mais quel but de TJ Savanier!
Oui, c'est un peu un moment suspendu, je trouve, dans cette première période. C'est-à-dire que il y a un contre montpelliérain avec au départ Savanier qui a la récupération et qui poursuit son appel couloir droit. Issiaga Silla l'a vu, il met un centre au deuxième poteau qui est parfait. Et là, il y a un geste qui est somptueux. Il y a souvent des gestes qui se passent de commentaires. Celui-ci en fait partie. C'est-à-dire que Savanier ne cherche pas à mettre trop de puissance dans sa volée. Il cherche simplement à s'appuyer sur la qualité de centre d'Issiaga Silla. Il apprend légèrement de l'extérieur du pied, coup du pied externe, le ballon tourne. Il n'y a absolument rien à faire pour Guillaume Rest. C'est le geste de cette journée, l'un des gestes même peut-être de la saison. Mais c'est qu'une seule petite catégorie de joueurs qui est capable de réaliser ce geste-là avec autant de simplicité et de précision.
Patrick, dans le stade, évidemment, on est resté un peu scotché et puis c'est un but de l'équipe adverse, mais quand même, quand on aime le foot, est-ce qu'il y a eu des petits applaudissements parce que le geste, il était vraiment fantastique.
Je ne sais pas sur les applaudissements, d'autant qu'il n'y a pas de supporters, vous le savez, Montpellierin ce soir, vous le savez peut-être.
Non,
pas.
Mais je parlais des Toulousains, justement.
Ouais. Bon, bah écoutez, le public s'est arrêté de chanter, je pense. Je ne suis pas sûr qu'ils aient applaudi les ultras, mais enfin, tout le monde a profité de ce moment vraiment exceptionnel. Encore une fois, on le répète, hein, ça a été parfaitement décrit, cette frappe de Savanier. Rien que pour ça, je pense que ça valait le coup de venir ce soir au Stadium de Toulouse. Et comme il y a eu du plaisir également dans la fin de cette première mi-temps, et bien on se régale pour l'instant.
Et dans tout ce qu'a décrit Xavier, je rajouterai que vous pourrez regarder le but d'ailleurs sur RTL.fr, parce qu'évidemment il va faire le tour de tous les sites internet et de tous les réseaux sociaux spécialisés. Ce qui est magnifique, au-delà du geste qui est dans l'équilibre parfait de l'extérieur du pied, c'est que ça passe, en plus ça frôle le défenseur. Enfin, t'as l'impression que la trajectoire est téléguidée tel un missile.
Ça contourne Nicolas Hyssen.
Nicolas Hyssen et ça vient se loger dans le but de Guillaume Rest. Karine, voilà, c'est fantastique, quoi. T'as l'impression que la trajectoire, elle est millimétrée, quoi.
Oui, c'est magnifique. Après, franchement, heureusement qu'il y a eu cet éclair dans cette première mi-temps du côté de Montpellier. Mais comme l'a dit Xavier, effectivement, TJ Savanier est capable de ça. Moi, je suis quand même toujours un petit peu frustré parce que TJ Savanier, cette mi-temps, il ne fait rien. Et puis, poum, à la 27e, l'artiste, parce que lui, c'est un artiste, a décidé de nous rappeler qu'il était capable de merveilleuses choses. Mais voilà, moi je reste toujours un petit peu sur ma faim parce qu'il y a trop d'irrégularités, bon. Il y a trop de moments où en fait il y a une absence de ce joueur en fait.
Quand on est joueur de foot, en fait, il y a des buts dont on rêve la nuit.
Ah ben ça, c'est le but que tout le monde rêve de marquer le dimanche.
Mais celui-ci, on en rêve. Évidemment. Et quand on a la qualité de frappe et la qualité de pied de Savanier, bien sûr qu'il en a rêvé toute sa vie parce que le ballon, il est parfait. Il s'appuie et la volée externe, c'est vrai qu'elle contourne Nicolas Hyssen à merveille.
Pour le second but. Et c'est Go Aboukal qui va le propulser au fond des buts, me semble-t-il. Il y avait une position de hors-jeu, but refusé.
Ah, dommage. Et il était parti, Patrick. Il s'est dit, ça y est, c'est moi qui vais le marquer, ce deuxième but. mais non, alors on va évidemment surveiller cette action. Tu as raison, Xavier, de dire ça. Et je convoque d'ailleurs Patrick Hisson et Samuel Duhamel qui nous écoutent aussi à distance. Je m'avance peut-être en disant que je pense que le seul entre nous tous ce soir dans cette émission RTL Foot qui a pu éventuellement un jour peut-être le marquer ou au moins l'envisager, c'est Xavier Domergue.
Oui.
Tous autant que nous sommes les autres,
oui,
un but tel qu'a marqué Tejis Tavernier, même pas. Oui, dans nos rêves éventuellement, mais c'est tout.
Ouais. Mais bon, pour ça, il faut jouer au foot aussi. Hein. Voilà.
Ouais, ah, oui. On a tous un peu joué.
Oui, un petit peu. Oui, voilà. Oui, oui.
Non, mais pour... Xavier, lui, est-ce que tu l'as mis un but comme ça?
Oui, j'en ai vite des volets comme ça. Mais après, la sienne, elle est remarquable parce qu'il la prend vraiment. Exter, elle tourne, elle est même pas pleine lucarne en fait, il prend une sécurité, c'est ça qui est fantastique, mais ça c'est le genre de ballon qu'on adore. La volée c'est un vrai geste technique et on a souvent tendance à vouloir en mettre trop et à vouloir mettre trop de puissance alors qu'il faut simplement en fonction de la qualité de centre s'appuyer, chercher le bon équilibre et la prendre vraiment de la meilleure surface de pied possible.
Patrick, je peux faire le grincheux, Tejis Tavernier il aurait presque pu être expulsé juste avant.
Oui,
Prend un carton jaune. Honnêtement, on n'est pas loin du jaune orangé
c'est
rouge.
Avant ou après? Je crois que c'est après.
C'est avant.
D'accord.
Ah oui, c'est avant.
Bon, bah écoutez, oui, c'est vrai qu'il a fait une grosse faute. Et ça, il est coutumier du fait. Il prend beaucoup.
Et franchement,
beaucoup
le jaune est gentil. Hein.
Alors moi, j'ai pas revu les images, mais c'était sur Dalinga, effectivement, qui a été sévèrement touché. Et alors que d'ailleurs, on se frictionne là entre Dalinga et Kouyaté, tout près de la surface de réparation.
Et je vais même te dire, c'est une minute avant. Hein. Il prend le jaune à la 26e et il marque à la 27e. Donc, il aurait pu ne plus être sur le terrain et bon, on aurait raté ce geste merveilleux.
Mais c'est le mauvais côté de, on le sait, hein, de Savanier. Et mais juste pour revenir sur cette reprise de volée, mais comme le disait Xavier, moi, c'est aussi l'impression de faciliter la limpidité de ce geste. Il n'y a pas, c'est pas quelqu'un qui se couche, qui s'arrache, qui va chercher ce ballon quelque part. Il le reprend, ça paraît facile et ça finit dans la lucarne.
Mais en fait, souvent, regardez la frappe d'Mbemba hier.
Ah bien sûr.
Elle est pas très forte.
Non. Elle est juste caressée.
Elle est
comme
caressée, enroulée, elle est placée dans les buts égalisateurs qu'on l'attend.
De toute façon, s'il avait tiré pleine bourre, il aurait tué un pigeon.
Mais c'est le soin de la prise d'appui aussi, de l'application dans l'appui avant la frappe. C'est-à-dire qu'Mbemba, on voit que le pied gauche, il est parfaitement positionné à côté du ballon. Il force pas sa frappe, il cherche l'intérieur du pied, elle est fouettée. Elle est magnifique. Après, il peut la tenter 15 fois. Je pense qu'elle passe 12 ou 13 fois à côté. Là, à l'arrivée, c'est somptueux. En plus, c'est poteau rentrant, donc c'est le geste, il est idéal. Mais pour revenir à ce que disait Karine sur Savanier, on a toujours cette frustration avec ces joueurs-là parce que ce sont des joueurs qui sont au-dessus des autres.
Mais il est heureux comme ça. Non.
Oui, mais qui ont une qualité technique bien au-dessus de la moyenne et parfois ils disparaissent trop dans une saison, dans un match.
Laurent Nicolin, il n'est pas heureux.
Mais non,
il voulait que le maintien soit acté bien.
Alors,
plus
j'ai gros. Un parallèle tout trouvé pour vous. Tejis Tavernier, il voulait cette vie-là, mais il ne veut pas la vie qui va avec un joueur qui va faire plus.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Non, mais si, parce que c'est comme Richard Gasquet en tennis, en fait.
Non, mais attends.
C'est-à-dire qu'ils se satisfont de cette vie-là. Ils veulent pas aller dans les grands clubs. Ils veulent pas avoir la pression médiatique.
Et
ils veulent
pas. Tu peux être régulier dans ton club.
Oui.
Non, mais le problème, c'est que Tejis Tavernier, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il a pas décidé d'avoir une hygiène de vie parfaite, d'avoir une pression, etc. Donc, il choisit Montpellier, Nîmes. Ouais. Bravo à lui. C'est tout à son honneur. Mais en tant que joueur de Montpellier, en tant que capitaine, il se doit d'être régulier à Montpellier. Il n'a pas visé le Real Madrid, il n'a pas visé le PSG, il a la technique qui est incroyable. Il a décidé d'être la pièce maîtresse de Montpellier. Mais il doit être beaucoup plus régulier. Et Laurent Nicolin, qui veut avoir des saisons un peu moins complexes, où tu joues pas le maintien jusqu'à la fin de la saison, où tu peux envisager la première partie de saison, etc., etc., et ben forcément, il préférerait avoir un capitaine qui est plus régulier. Et c'est normal. Et t'as beau aimer les barbecues, ça n'a rien à voir.
Et il fait pas que les barbecues. Hein. Vous savez où il passe ses vacances?
Oui, juste à côté.
À Palavas, les fois, jouer à la pétanque avec ses amis.
On adore les barbecues. Le problème des barbecues, c'est pas la régularité. Ça n'a rien à voir.
Au Sainte-Marie de la Mer aussi.
En plus, c'est sain les barbecues. Hein.
Ah ben moi j'adore.
Ça dépend ce que tu mets comme viande.
Voilà. Mais... Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit pas régulier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il il a choisi une vie où elle est confortable, il est bien, il joue au foot, ce qui lui plaît, à très haut niveau évidemment.
Bien sûr.
Mais clairement, c'est un garçon qui sans doute aurait pu aller chercher beaucoup plus, mais qui n'avait peut-être pas envie non plus d'avoir les contraintes et les agissements nécessaires.
Il peut faire beaucoup plus rien qu'à Montpellier. Il a fait des saisons, il a fait beaucoup plus.
Il pourrait faire beaucoup plus à Montpellier.
Vous savez qu'il vit aussi dans un quartier pauvre, hein, avec beaucoup de gens de sa communauté vitale, effectivement.
La cité gérée.
Et il a fallu construire d'ailleurs un abri spécial pour sa voiture de sport.
Ah, il a quand même une voiture de sport. Faut pas renoncer à tous les plaisirs de la vie, quand même.
C'est ce qu'on m'a dit juste avant ce match.
S'il peut, tant mieux pour lui. Un partout entre Toulouse et Montpellier. On est à l'heure de jeu, antenne ouverte pour toi, évidemment. Mon cher Patrick, on va aller à Lens pour découvrir les compos de Lens-Lorient.
RTL Foot.
Avec Samuel Duhamel, évidemment, c'est un match à très gros enjeux parce que Lens est sixième avec 46 points, qualifié pour l'instant pour la Ligue Europa Conférence. Pour la Ligue des Champions, c'est mort pour les Lensois. Mais Lens est sur une très mauvaise série et Lens commence à s'inquiéter même peut-être de ne pas jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est important pour les Lensois. Et puis Lorient est 17ème avec 26 points, relégable, un seul petit point devant Clermont et à 3 longueurs de Metz barragiste. Donc pour Lorient, il ne reste que 4 matchs avec celui-ci. 3 même d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit ? 3 matchs, 32.
Oui, 3 là, en tout. Ouais. 32.
3 en tout. Et donc, eh ben, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut absolument gagner pour recoller au minimum à la place de barragiste. Sam, il va y avoir de la pression ce soir à Bollard.
C'est sûr, c'est une pression qu'on a déjà vécue, souviens-toi, contre Clermont dernier de Ligue 1. Un match que Lens a vraiment archi-dominé, mais un match où Lens s'est fait peur. Donc, voilà, il n'y a rien d'acté pour ce soir. Ce sont deux équipes, effectivement, qui ont des points communs. Alors, au classement, pas forcément, mais dans les dynamique, ça se ressent et je pense vraiment que Lorient a un coup à jouer parce que on sent clairement que c'est en train de vaciller au Racing, que ça se passe sur le terrain et puis un peu aussi en coulisses, on y reviendra.
Oui, c'est compliqué. Ce sera quand même guichet fermé, on en a combien ?
Ah oui, non, mais guichet fermé,
personne n'a abandonné le navire, gens du Nord.
Il y a encore un peu de mou là-dessus, pas de soucis. 47e, Eric.
47e guichet fermé.
Bravo !
Voilà, franchement fantastique. Et nous, on a des images de Brice Samba qui est à échauffement. Attention de se blesser quand même parce que avec Mike Maignan qui est pas tout feu tout flamme en ce moment, il y a quand même l'Euro qui approche.
Ça sera toujours un point d'interrogation. On ne sera jamais complètement rassuré. C'est quelqu'un qui se blesse trop souvent.
Et petite info, tiens, au passage, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, le 5 juin, juste avant l'Euro, vous savez que le 5 et le 9, l'équipe de France va jouer 2 matchs amicaux de préparation. Oui. Le 5, ce sera à Metz et ce sera contre le Luxembourg. Je ne sais pas si c'est très... En termes de qualité d'adversaire.
Didier Deschamps, il n'aime pas avoir trop d'adversité pour les matchs de préparation parce qu'il n'a pas envie de commencer une compétition avec une défaite dans la besace.
Peut-être. En tout cas, ce sera contre
Luxembourg. Et ça a été acté aussi les 26 joueurs. Et Didier Deschamps n'en voulait pas.
Oui. Ah, il va être chef ou un autre.
Non, mais c'est comme ça, tu prends tout le monde. De toute façon, il n'y a plus de sélection. Donc.
C'est comme ça. Bon, découvrons les compos de ce Lens Lorient, mon cher Samuel.
Avec une petite surprise à Lens, on va en parler dans quelques secondes.
Est-ce que c'en est une ? J'anticipe ta compo.
Ouais, j'aurais tendance à dire oui.
Quand même.
On va en parler. Ouais, c'est Angelo Fulgini qui va en fait retrouver peut-être ses premières amours au milieu de terrain. C'est avec Nel El Aïnaoui est forfait jusqu'à la fin de saison. Il s'est blessé à Marseille en torse du genou gauche. Et on se demandait est-ce que c'est Diouf qui va le remplacer ou Thomasson ou Salis Abdoul Samed. Eh bien, ça sera a priori Angelo Fulgini. Ce qui nous donne la compo suivante, le dispositif ne change pas évidemment, un 3-4-3 pour Francaise. Brice Samba, le capitaine, dans la cage. Grady, Danso et Medina en défense. Comme piston, il y avait une interrogation à droite puisque maintenant il y a Frankowski et Aguilar. Eh bien, c'est Frankowski qui a été titularisé. Machado retrouve son côté gauche. Et donc, le double pivot avec Nampalis Mendy et Angelo Fulgini qui seront derrière Eliwahi, à nouveau titularisé en pointe avec Sotoka et Pereira da Costa sur les côtés.
C'est noté. Côté Lorienté, après on demandera à nos spécialistes leur avis sur ce recul de Angelo Fulgini.
Alors Régis Lebris qui lui a opté pour un dispositif qui me semble un peu plus défensif, un 3-5-2 avec Mvogo dans la cage. On a Talbi, Laporte et Adjei en défense et on va retrouver un milieu renforcé avec le capitaine Laurent Abergel, Bakayoko qui sera là également et Imran Louza, et puis donc sur les côtés Benjamin Mendy et Panos Katsiris avec deux joueurs à vocation offensive, Mohamed Bamba et Sylvain Ponceau.
Pas de Boanani donc au coup d'envoi de cette rencontre. On a privilégié Bakayoko, le milieu de terrain renforcé. Fulgini qui recule, moi c'est pas pour me déplaire en fait.
Non, moi c'est un rôle que je trouve qui lui correspond très bien. C'est un joueur qui a une vraie qualité technique, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu et qui est capable, à mon sens, d'être très percutant et très influent dans ce sens-là et dans ce rôle-là. Davantage que sur un côté d'ailleurs. Je trouve qu'il a plus les qualités d'un joueur d'axe, d'un joueur qui est capable sur une passe de transpercer, d'amener beaucoup de dangers que dans le 1 contre 1 pur sur un côté parce qu'il n'a pas la qualité de vitesse. Mais dans un rôle un peu plus bas face au jeu, je trouve que c'est cohérent. Après, c'est dur quand même pour les autres parce que tu as énormément recruté dans le cœur du jeu. tu t'es toujours posé la question tout au long de la saison, hein, Sam, quelle association faire?
Bien sûr.
Abdoul Samed, au début, c'était plutôt bien. Après, ça a été compliqué. Il est parti à la CAN, on a dû bricoler. Andy Diouf, pendant ce bricolage-là, a été plutôt performant. Et Lainaoui, lui, a été le joueur le plus régulier dans ce secteur-là. Il y avait de la rotation aussi avec Nampalis Mendy, mais ça a toujours été difficile d'en détacher deux, véritablement. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un désaveu terrible pour les autres milieux de terrain, parce que tu fais reculer un joueur qui est plus créatif et qui peut jouer un peu plus haut.
Il a essayé, tu l'as dit, plusieurs combinaisons possibles, et au final, le milieu de terrain que tu avais l'an dernier, qui était quand même très performant, avec évidemment le monsieur plus Fofana, t'es pas arrivé à retrouver un milieu de terrain qui était autant souverain et autant dominateur. Donc moi, je trouve que c'est quand même intéressant qu'il essaie, parce qu'il lui reste 3 matchs. Moi, je suis pas très inquiète par rapport à cette place européenne, parce qu'il a quand même 2 points d'avance sur Marseille, et je pense que les Marseillais...
Montpellier qui va terminer à 10.
Ah.
Et devinez qui s'est fait expulser. En deuxième jaune, c'est Savagnier. Voilà. Alors, on n'a pas revu l'action. L'arbitre, il y avait un joueur qui était au sol. Ça a échappé un petit peu à tout le monde, mais pas l'arbitre. Il y a eu l'arbitrage, je crois, vidéo également.
Attention, parce qu'il y a déjà Nordin qui a pris 2 matchs de suspension. Mika Reddy qui a pris 2 matchs de suspension. Là, Savagnier qui va être suspendu. Les Montpellierens sont quasiment sauvés avec ce point. Si jamais ils prennent un point ce soir à Toulouse, ce sera quasiment
ça va être plus compliqué là maintenant.
Mais là, c'est pareil, je vais regarder, il a pris combien de rouges cette saison, Savagnier?
Trop. Pas faux.
C'est vrai.
On y revient. D'ailleurs, on fait rentrer Jordan Ferry. TJ Savagnier qui sort et qui s'en prend un peu au quatrième.
Il est en train de s'embrouiller avec le quatrième arbitre.
Ferry, voilà.
Non, mais il s'embrouille avec le quatrième arbitre parce qu'il était en train de lui dire: je veux mettre le brassard de capitaine sur le bras de Jordan Ferry. Et je pense qu'il lui a mal parlé, il lui a demandé de sortir et du coup, ça l'a énervé.
La scène est géniale parce qu'il est allé voir son président, Laurent Nicolin. Et il lui a mis le bras sur le torse, il l'a poussé pour mimer le geste qu'il a fait, en disant bah, je l'ai poussé comme ça, et puis le mec il est tombé, c'est ridicule et tout. Et il l'a fait vraiment sur son président, le geste.
Et le président n'est pas tombé par contre.
Non.
Bon, déjà il était assis. Mais en plus, pour le bouger, Laurent Nicolin, il faut se lever tôt quand même.
Mais est-ce qu'il était compatissant avec son joueur? Parce que j'ai pas vu la scène.
Ouais, non, c'est il ça était plutôt souriant.
Ah, voilà, donc ça va.
Parce qu'il sait que le maintien est quasiment assuré, donc il est soulagé.
C'est incroyable en fait, parce que c'est fou, parce que TJ Savagnier, j'ai toujours l'impression qu'il fait des fautes un peu stupides qui lui amènent des rouges. Il en a pas eu cette saison. Je suis mauvaise langue. Hein.
Beaucoup de jeunes, en revanche, non?
Ouais, beaucoup de cartons par contre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
C'est pas mal.
Oui. C'est pas mal.
C'est quand même pas mal.
Mais je pensais, c'était l'an dernier alors qu'il avait pris des rouges.
Oui, oui.
Allez. L'an dernier, il avait pris d'ailleurs une longue suspension, je crois, 3 ou 4
exactement.
Matchs.
Exactement.
20h26, on va parier sur ce Lens-Lorient avant de se plonger sur la fin de ce Toulouse-Montpellier, partout toujours, et donc Montpellier à 10 après l'expulsion de Savagnier.
Maintenant, 100% prono avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Voici les cotes de ce Lens-Lorient. 1,42 la victoire lensoise, 10 euros de misée, 14,20 euros de gagner, 4,80 le match nul, 10 euros de misée, 48 euros et même 49 désormais puisque c'est 4,90 la cote si vous misez 10 euros. Et 6,25 la victoire lorientaise, 10 euros de misée, 62,50 euros de gagner. On commence par Karine.
Alors, je vous propose une cote à 11 ce soir, en espérant qu'il y en ait bien une qui finisse par passer, vu la semaine terrible que j'ai vécue.
Il y a des mauvaises semaines comme ça.
Il y a des mauvaises semaines.
Mais vous nous avez tellement bien habitués que ça va revenir.
Mais oui, oh, vous êtes tellement bons. Allez, moi je crois en Lens. Lens qui gagne, c'est mon pari du soir. Nombre de buts plus de 2,5. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Le résultat à la mi-temps, match nul. Buteur multichance, j'ai choisi un Lensois Sotoka ou Mohamed Bamba, le meilleur buteur de Lorient, qui est pourtant arrivé qu'au mercato hivernal.
Oui, qui avait un petit coup de moins bien, mais qui a remarqué. Là,
contre Paris.
Contre Paris, donc ça lui a redonné peut-être un peu confiance. Xavier.
Oui, je trouve nos amis de Winamax pas très généreux avec nous ce soir.
C'est dur de faire monter la cote. Hein.
C'est vrai.
Hein,
après, franchement, vous faites une belle cote entre 5 et 10, c'est déjà bien.
Pourtant, on les adore.
Hein, c'est pas être trop gourmand.
J'ai une cote de 12,50, donc un tout petit peu
pas mal,
plus...
Quoi. 10 euros de misée, 125 euros de gagné.
En pleine bourre sur les buteurs.
Donc, oui, mais...
Ouais, fais attention.
Alors là, pour le coup, j'avais fait au début des buteurs secs, mais c'était pas vraiment payé. Donc je me suis dit, je suis revenu à quelque chose de plus classique. Donc victoire de Lens. Les deux équipes marquent, c'est un grand oui. Comme ma chère Karine Galli. Score exact, 2-1 pour Lens. Buteur multichance, Wesley Saïd.
Après un seul score?
Ouais. Ah oui. Wesley Saïd ou Mohamed Bamba.
Et Saïd en sortie de banc alors.
Ouais, je me dis, en mettant un seul score, ça va monter quand même.
Ça va monter. Bah, ouais, mais 2-1, c'est toujours le score le plus joué.
Oui, c'est vrai.
Pas cher payé. Hein.
12,50, c'est pas mal quand même.
Non, non, mais c'est une belle cote. Mais
12,50 et 11 pour Karine Galli.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Lens-Lorient, ce sera à partir de 21h dans RTL Foot. On marque une courte pause et on retourne à Toulouse pour la fin du match entre Toulouse et Montpellier. Match d'ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Un but partout. Montpellier à 10 après l'expulsion de Savanier et il reste 20 minutes à jouer. À tout de suite.
RTL Foot.
C'est quand tu me réponds sur Instagram.
Je t'ai répondu.
Mais tu m'as demandé. Arrête, mais si c'était pour tes conseils de crème pour la peau, tu m'as donné.
Ah oui,
je t'ai
déjà dit le nom.
Il conseille des produits et puis il n'y a pas de SAV derrière.
Mais non, je conseille rien. Il est venu me voir et m'a dit t'es trop beau. Qu'est-ce que tu mets sur ta peau?
Oh non, non, tu m'as dit ça.
J'ai pas dit ça comme ça.
Mais tu peux rien faire, t'es belge.
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Éric Silvestro,
RTL Foot jusqu'à 23h.
Avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Samuel Duhamel qui sera à Lens pour Lens-Lorient à partir de 21h, avec Patrick Hisson qui nous commente actuellement Toulouse-Montpellier, un partout entre les deux équipes. Juste avant d'y retourner dans ce Toulouse-Montpellier, Montpellier à 10 après l'expulsion de Savanier, on va faire un point sur les scores de Ligue 2 et de National, c'est important, on est en fin de saison également.
On va commencer par la Ligue 2 où on joue depuis 32 minutes avec la belle affaire pour l'instant réalisée par le SCO d'Angers qui mène à 1-0, un but d'Abdelli qui permet à Angers de prendre provisoirement la deuxième place avec un point d'avance sur l'AS Saint-Etienne. 0-0 sinon entre Bastia et Amiens, 0-0 également entre Caen et Laval. Bordeaux qui mène 2-0 face à l'AC Ajaccio du côté du Matmut Atlantique avec une équipe totalement remaniée du côté des Bordelais. Nouveau but de Pedro Diaz notamment qui a été auteur de l'ouverture du score. 1-0 pour Concarneau sur la pelouse de Grenoble, 1-0 pour QRM face à Dunkerque, 1-0 également pour Annecy sur la pelouse de Rodez et 3 qui mène 1-0 contre Valenciennes. En national ?
Oui.
En national, c'est la mi-temps quasiment sur toutes les rencontres alors qu'on joue depuis 72 minutes à Châteauroux. 0-0 entre Châteauroux et Villefranche. Sinon, la mi-temps, on le disait, 0-0 également entre Avranches et Nancy. 0-0 aussi entre Épinal et Orléans, un but partout entre Gol FC et Nîmes, 2 buts partout entre Le Mans et Cholet, 1 but partout entre le Red Star et Versailles, le Red Star qui a assuré, on le rappelle, de monter en Ligue 2, 0-0 entre Sochaux et Dijon, et l'un des chocs, un des matchs importants, un petit peu plus tard, ce sera à 21h dans une petite demi-heure, Martigues qui reçoit Marignac, Martigues qui est en passe de retrouver également la Ligue 2.
Allez, direction Toulouse parce que ça discutait avec l'arbitre de la rencontre, il y avait une vérification VAR sur une action litigieuse, quoi, c'était pour une main Montpellier-Rennes ?
Oui, c'est ce que demandaient les Toulousains. Il y a eu vérification et d'ailleurs, M. Ballinger, depuis le début de cette rencontre, applique la barre, à mon avis, comme on devrait l'appliquer. Il prend son temps, effectivement. Ok, très bien, on va vérifier. Il y a eu 2-3 coupures comme ça. D'abord sur le but qui a été refusé, très justement d'ailleurs, alors qu'il l'avait validé, il a pris son temps pour aller voir même l'écran et refuser ce but. Et là, il a pris 30 secondes pour vérifier s'il n'y avait pas eu une main Montpellier-Rennes dans la surface de réparation de Montpellier.
C'eût été sévère de la siffler, donc la décision est bonne, je pense.
Voilà, et attention à ce centre de Kamandzi qui passe, qui frôle, passe un petit peu au-dessus la barre transversale. Et depuis cette expulsion de Savanier, évidemment, on assiste à une attaque défense.
Avec seconde période un peu plus décevante que la première, non ? Même si les premières minutes avaient été compliquées, derrière, ça s'était un peu emballé. Toulouse avait vraiment bien joué et dominé. Et là, je trouve que c'est un peu plus compliqué.
Ouais, il faut dire que Montpellier s'est révolté un petit peu au niveau
l'engagement physique, a mis un petit peu plus du sien, de grinta dans cette rencontre. Et du coup, le jeu s'est équilibré avec un spectacle un petit peu moins intéressant. Et là, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'avec cette expulsion de Savanier, les Toulousains vont presser et ils vont reculer très très bas, ce qu'ils font là depuis 3-4 minutes, les Montpelliérains, dans leur camp pour faire un gros bloc de 9 joueurs face aux attaques toulousaines où Babika est rentré en lieu et place d'Abouklal. Très très décevant encore une fois ce soir. Il est clair qu'il est loin d'être revenu à son meilleur niveau.
Ouais, et puis en plus il joue tout seul. C'est-à-dire c'est... Déjà, quand tu reviens de blessure, bon, c'est un joueur qui est très dans la provocation, dans le dribble, ouais. qui touche beaucoup de ballons, mais quand tu sens que c'est pas forcément très efficace et qu'en plus tu reviens, Xavier, alors je sais que t'as envie d'en faire des tonnes, oui. Mais du coup, c'est pas efficace, quoi.
Ah bah, il a perdu, je sais pas, 80%, 90% de ses ballons. Il n'a jamais fait la différence. Bon, il avait marqué un but après avoir commis une faute auparavant. Donc, il est très normalement sorti, a été remplacé par Babika.
Ouais. C'est le problème, Patrick, de ces joueurs-là. C'est-à-dire que...
Il est revenu un peu tôt aussi, hein.
Oui, mais au lieu de jouer simple et de revenir tranquillement et de respecter le jeu, entre guillemets, de faire ce que réclame le jeu, c'est-à-dire de jouer en une touche ou deux touches quand il faut le faire, bah, il a tendance à trop en faire, à trop emporter. Parce
c'est déjà le cas normalement, mais alors quand il revient de blessure, évidemment, il en fait encore plus.
Il a tellement faim de ballon, il a tellement manqué parce qu'il a été absent pendant de longs mois, donc on est heureux de le retrouver, mais c'est vrai que c'est difficile dans ces cas-là de se forcer, de jouer contre nature un petit peu et de se dire, bon, je vais essayer de simplifier un peu tout ça.
Ouais, Kamanzi est également entré en lieu et place de Dessler sur le côté droit, la défense toulousaine. On a procédé, je crois, même à un troisième changement, puisque c'est Soiseau, effectivement, qui a remplacé Diarra, qui avait écopé d'un carton jaune. Deux joueurs avertis du côté toulousain. Et c'était la même chose du côté montpelliérain, hein, mais ça a valu rouge pour un deuxième avertissement consécutif pour donc Savanier. Partout entre Toulouse et Montpellier. Et on espère que ça va s'animer un petit peu.
Oui, Patrick, tu me disais en préparant la rencontre, quand on s'est eu au téléphone cet après-midi, moi je te disais bon ben voilà, Toulouse n'a plus rien à jouer, Toulouse est maintenue, Montpellier lui manque un petit point, mais bon voilà, mais toi tu me disais non, à Toulouse on croit encore à autre chose.
Oui, on croit à un double miracle. Alors un miracle peut-être, ça serait la victoire sur toi. Attention, Dalinga qui va frapper, interception, je crois que c'est encore Kouyaté, qui fait un très gros match en défense centrale. Oui, le miracle ça serait... Bon, vous allez me dire que peut-être non, on ne sait jamais. L'Olympique de Marseille remporte son trophée, sa Coupe d'Europe, la Ligue Europa, et que dans le même temps, eh bien, Lyon soit battu en finale de la Coupe de France, qui ouvrirait une huitième place, qui rendrait un tout petit peu plus possible, peut-être, à condition d'avoir de super résultats.
À ce rythme-là, on va finir le relégable, d'autant... va être qualifiable en Coupe d'Europe. Hein.
Non, mais ce serait vraiment un exploit pour les Toulousains, parce que les prochains matchs, c'est Paris à Paris, hein, pour la soirée du titre. Je pense qu'ils vont peut-être vouloir se décarcasser un petit peu les Paris pour ce match, et ensuite où ils vont célébrer le titre en tout cas, et ensuite ce sera la réception de Brest qui jouera peut-être sa place en Ligue des Champions sur son dernier match. Donc bon, ça paraît très compliqué, et puis là il faut qu'ils marquent un but de plus au moins les Toulousains, hein, a priori. Hein.
Oui. Bon, j'ai l'impression qu'a priori c'est cuit. Que Paris gagne la Coupe de France, bon ça
reste tout à fait possible.
Voilà, ça serait,
pour pas dire probable,
normal. Bon, que Marseille soit en finale et batte le Bayer Leverkusen, j'ai plus de doutes.
Ça paraît plus compliqué.
Il y a des déjà un match retour quand même à gagner.
Eh ben oui, c'est un petit peu plus.
C'est-à-dire que comme dit Karine, il y a deux écueils importants à passer.
Tu joues quand même sur la pelouse de l'Atalanta, même si on rappelle que le stade est en réfection, il n'y a que 15 000 personnes potentielles, 750 supporters marseillais simplement. Mais bon, malgré tout ça, il faut quand même passer l'obstacle d'Atalanta qui n'a pas été brillant hier, mais qui devrait être beaucoup plus, je pense, conquérant à domicile. Et ensuite, potentiellement, Leverkusen qui s'est imposé 2-0 à la Roma. Donc,
c'est toujours invaincu. Ouais.
47 matchs. Hein.
Ouais. J'ai fait un EuroMillions, j'ai toujours pas vérifié, vous voyez. C'est à peu près comme là, les petits comptes de Toulouse. Quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc je vois si j'ai gagné, mais je sais pas tout.
Bon, Montpellier à 10, là, ne propose plus grand-chose. Hein. Essaye de résister hein, pour prendre ce petit point qui sera synonyme quasiment de maintien. Quoi.
On procède à deux changements supplémentaires du côté toulousain avec Sissoko, le buteur qui a permis à Toulouse de s'imposer à Lorient le week-end dernier, et puis Spierings qui était au repos et qui prend la place de Schmidt qui a été plutôt très très correct en première mi-temps. Il a frappé sur le poteau, une frappe à l'entrée de la surface de réparation, il a donné quelques bons ballons à l'Allemand, et c'est Caceres qui va sortir finalement, c'était pas Schmidt si les deux sont sortis d'ailleurs et remplacés donc par Sissoko et par Spierings. ce qui veut dire qu'il va y avoir un attaquant supplémentaire du côté toulousain.
Ouais, tout le monde ronronne un peu là, j'ai l'impression. Hein. Il fait bon là à Toulouse ?
Oui, ouais, il fait très bon, il fait une vingtaine de degrés, il y a quelques rayons de soleil.
Je voudrais tu vois, que le match s'arrête à la 80e et je pense que
les deux, ils seraient
d'accord aussi.
Je pense que les Toulousains ont quand même envie de gagner ce match.
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine à Toulouse d'ailleurs ? On sait un peu vers quelle orientation on se dirige, quelle ambition.
On ne sait pas du tout, hein, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui avaient parlé d'un rachat du club et puis finalement il n'en est rien. De la vente du club, c'est comme vous voulez. Rachat par un nouvel Américain. Attention à cette contre, ce contre et ce but. Et ce but Montpellierin. Et ce but Montpellierin qui est marqué par Fayad. Alors que la défense toulousaine s'est complètement mêlé les pinceaux en deux temps, en trois mouvements. Et bien Fayad est allé battre de près Guillaume Rest. Ils se sont fait surprendre, effectivement, ils étaient en train de ronronner les Toulousains. Et à la surprise générale, c'est Montpellier à 10 qui mène désormais 2-1 après ce but de Fayad.
Oh, il passe entre. Il élimine 4-5 Montpellierens.
Ferry.
Et ensuite, il y a Fayad qui arrive. Toulousain. Et après, il y a Fayad qui arrive avec Glissé. C'est les deux entrants.
Montpellierens qui est resté en plus au sol depuis longtemps.
Ils étaient à 9 sur le terrain.
Ouais.
Ah là, les Toulousains trop passifs, Xavier.
Ah bah, c'était trop. 4 poteaux, là.
Beaucoup trop. Et en plus, c'est Jordan Ferry. Hein. J'ai rien contre la qualité technique de Jordan Ferry, mais.
C'est pas son point fort.
Bah non, c'est quand même pas son point fort. Là, on a l'impression qu'il passe en revue toute la défense toulousaine avec une grande facilité. Alors certes, pas
les
mal
deux entrants, hein, Ferry et Fayad. Hein.
Pas mal de contre-favorables, mais les deux entrants, effectivement, qui font la différence. Fayad qui finit bien et qui lui aussi, ça va lui faire du bien. Hein, parce qu'on sent que c'est un joueur qui a des qualités, mais il a vraiment du mal à confirmer et à enchaîner les bonnes performances.
Et il y en a un là qui a glissé, le 6 là. Oh là là là.
Et la défense toulousaine là,
ah
sur
oui,
ce
c'est
coup-là.
Costa qui glisse sur ce coup-là. Sur l'action précédente, il avait également glissé. Il y a eu en deux minutes les Toulousains qui ont fait un petit peu n'importe quoi défensivement. Et Montpellier en profite. Ils auront, on va dire, quasiment donné ce second but, même s'il fallait le mettre, même s'il y a eu ce joli slam de Ferry.
Il rejoindrait d'ailleurs Toulouse à égalité de points et à égalité à la différence de but. Et les deux seraient sauvés, officiellement sauvés, y compris
c'est
Montpellier.
Costa, oui, qui s'est fait complètement enrhumer. C'est Caramo qui est resté là.
Toulouse est déjà sauvé. Et Montpellier, si Montpellier l'emportait aussi à Toulouse, serait sauvé également.
Enfin, c'est deux équipes quand même.
Le rouge, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le rouge ?
Pour Gabrielsen qui avait pris un carton en première mi-temps et là effectivement il est accroché par le maillot et ça fait 10 joueurs toulousains contre 10 montpelliérains désormais. Gabrielsen qui sort très logiquement, les deux cartons étaient absolument mérités pour quasiment la même faute en première période. Il a attrapé par les épaules le joueur qui était passé devant lui et il prend très logiquement, le capitaine toulousain, un carton jaune supplémentaire. Et donc ça, on va
l'arbitre
terminer à 10
c'est le sosie de Romain Mouma.
Oui, c'est Bollangier.
Voilà, je l'ai retrouvé.
Ouais. C'est à 83e minute.
Je trouve très très bon ce soir, franchement.
Mais non, parce qu'en fait, je vois les gens et puis, tu sais, mon cerveau est au ralenti ces temps-ci, donc il me faut beaucoup de temps pour retrouver à qui ressemble.
Il est un peu sévère ce deuxième jaune, non ?
Oui, bon après il annule une occasion de contre sur.
Ah non, j'avais pas vu. Pardon.
Il le ceinture.
Oui, mais non, mais oui, non, tout à fait. Sur le plan précédent, j'avais pas vu qu'il avait vraiment entouré le
deux torse. Mains, il le.
Oui,
prend.
Non.
Ouais, non, c'est assez grossier quand même.
Carton jaune logique et expulsion logique de Nicolas Hyssen.
Il y a eu zéro protestation en plus, évidemment.
Par rapport à ce que disait Eric, Patrick, sur l'orientation qui va être choisie par le club.
La saison prochaine.
Oui, mais même par rapport au groupe, parce que. Un joueur comme Dalinga, là il a marqué 13 buts encore cette saison, il fait quand même une saison, j'ai l'impression qu'il a franchi encore un cap.
Il va partir,
en termes de qualité. Financièrement ça risque de rapporter gros. Malgré tout, Dalinga.
Oui, on parle de au moins 20 millions et à mon avis un petit peu plus a priori. Hein.
Bah oui, parce qu'il va sans doute y avoir un club anglais qui va arriver parce que c'est. Je trouve que c'est les stéréotypes de l'attaquant un peu type Højlund ou un attaquant comme ça un peu puissant qui dans la surface.
Højlund à Manchester, c'est pas non plus.
Oui, mais et qui dans la surface est très très fort, je veux dire des attaquants un peu comme ça nordiques comme Haaland, comme des
joueurs
un peu.
Faut pas qu'il aille trop Dalinga quand même, hein, je pense qu'il.
Non, mais c'est un joueur qui dans la surface.
Non, pas trop, mais il pèse beaucoup. Hein,
ah ouais, évidemment, c'est un bon joueur, mais
c'est un bon
faut pas qu'il aille dans un grand
également.
Club européen quand même. Quoi.
Non, mais tu vas avoir un gros club anglais qui va s'intéresser à lui et qui.
Alors,
va
on parle de Rennes.
Hein,
ce soir, on parlait de Rennes, mais bon, Rennes aura peut-être
Rennes,
les moyens d'un club anglais.
Oui, non, mais Rennes, ça paraîtrait une progression assez logique, ou alors un club, je sais pas, un West Ham ou un truc comme ça.
Même un Nicolas Hyssen défensivement, c'est un défenseur de qualité, moi je trouve. Nicolas Hyssen, il fait quand même encore une belle saison. Bon, là, il prend rouge sur le deuxième jaune. Bon, voilà,
sacrifice, on va dire, pour voilà. Pas que.
C'est un fait de jeu. Mais dans l'ensemble de sa saison, c'est une saison de qualité, hein, Patrick.
Allez, coup franc. Oui, non, excusez-moi, vous parliez de Gabriel Sen, c'est ça.
De Nicolas Hyssen.
Nicolas Hyssen, pardon. Oui, il fait une super saison et il y aura peut-être du monde sur lui, effectivement, au moment du mercato, comme sur Costa, hein, qui fait quand même aussi une bonne saison, qui est solide. Ouais. Comme sur Mawassi également, qui est absent là jusqu'à la fin de la saison, qui est blessé. Le très, très jeune joueur toulousain qui a prolongé son contrat, mais enfin ça veut rien dire, on ne sait jamais. Ça sera un petit peu tôt à mon avis, hein, parce qu'il vient à peine de célébrer ses 18 ans. Quant à Guillaume Reste dans les buts, a priori il ne partira pas. Mais bon, sauf offre mirobolante, et ce sera un petit peu précoce également, parce que s'il a fait une grosse saison, s'il a souvent sauvé son équipe, il a encore quelques lacunes, notamment dans ses sorties aériennes, où il a beaucoup, beaucoup de mal à soulager son équipe. Et bon, ça serait bien qu'il reste, qu'il garde au moins ses jeunes. Presque cadre déjà, malgré leur jeune âge, la saison prochaine. Attention à ce coup franc qui va être frappé.
On va surveiller le coup franc et ensuite on fera une courte pause publicitaire avant de revenir pour la fin du match au stade.
Alors c'est parti avec un pied droit dans le mur, directement de. C'est qui c'est Ferry qui a frappé ce coup franc, j'ai pas vu parce que.
Ouais, c'est Jordan.
Après son action précédente.
J'avais pas vu que c'était lui qui avait récupéré le brassard de capitaine.
Il tire même les coups francs. Un partout. Non, pardon. 2-1 pour Montpellier à Toulouse. Et 10 contre 10 puisque Nicolas Hyssen côté toulousain était expulsé après l'expulsion de Savagnier côté montpelliérain un peu plus tôt. Le coup franc n'a rien donné.
Ce serait une quatrième victoire sur les 6 dernières journées pour Montpellier. Les deux équipes restaient sur deux séries assez incroyables de 5 matchs sans défaite des deux côtés. Franchement, c'est
Toulouse n'a gagné que 3 matchs à domicile cette année.
Ouais, ça, c'est
alors que l'an dernier et en Ligue 2 aussi ils étaient si bons.
Ouais.
Le maintien pour les deux équipes dans quelques minutes si on en reste là, et notamment pour Montpellier qui n'était pas encore assuré d'être sauvé dans l'élite la saison prochaine. Courte pause et retour d'RTL.
RTL Foot. On refait la télé, présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL.
Vous savez, Jade, que j'ai un point commun avec Adriana 42.
Ah ben là, comme ça, je vois pas, là, que c'est sport.
On a la même longueur de jambe.
Oui, bien
1m26. Mm-hmm. Enfin, à quelques centimètres près, quoi.
Voilà.
Aujourd'hui, plus encore, elle prend de la hauteur avec une autobiographie dans laquelle elle nous raconte absolument tout, sans phare.
Ses années comme top modèle international, mais aussi ses expériences à la télé, comédienne, animatrice. On va revenir avec elle sur ce parcours hors du commun.
On refait la télé d'Adriana 42, c'est demain à 11h30.
Mon rêve, c'est de devenir astronaute pour réparer la Terre si elle se casse. Dans mon rêve, j'ai visité un centre aéronautique. Ce rêve, c'était la semaine dernière.
L'association Petit Prince donne vie au rêve des enfants malades. Vous êtes en Île-de-France et disponible 2 jours par semaine? Devenez bénévole. Envoyez votre candidature sur
petitprince.com.
RTL Foot. C'est jusqu'à 23h.
Avec ce soir Lens-Lorient dans un quart d'heure, le coup d'envoi de cette rencontre à Bollaert avec Samuel Duhamel au commentaire, Karine Galli, Xavier Demergue, et nous suivons la fin de Toulouse-Montpellier, match d'ouverture de la 32e journée de Ligue 1, avantage au Montpellierain, 2-1 et 10 contre 10, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, Patrick Hisson.
Exactement, long ballon là, beaucoup trop long d'ailleurs et profond, alors que Dalinga dans la surface de réparation a simulé un geste montpelliérain de la part de Julien, mais bon, il n'y a rien du tout et le jeu peut continuer. 2 buts donc de Fayad en deuxième mi-temps, et puis ce bijou, on le rappelle tout de même, de Savagnier. Pour les gens qui prendraient l'antenne à l'instant, c'est sans doute le but, c'est sûr, quasiment de la journée de championnat, et peut-être l'un des buts de l'année avec cette reprise somptueuse du pied droit, pleine lucarne, qui avait ouvert le score avant l'égalisation de Dalinga. Et deux équipes qui évoluent à 10 contre 10 avec un jeu qui est de plus en plus haché entre deux équipes. Montpellier qui finalement réussit à faire ce soir ce qu'elle était peut-être venue chercher, être certain de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine, c'est chose faite avec ce résultat, et des Toulousains qui vont dire définitivement adieu au très 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 mince espoir d'une qualification en Ligue, en conférence européenne, enfin en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, surtout s'ils s'inclinent ce soir une nouvelle fois au Stadium où ils n'ont gagné que 3 matchs, je le disais tout à l'heure, contre Metz, contre Nice et contre Lille, ce qui est vraiment très pauvre, alors qu'à contrario, ils ont réussi un parcours quasiment exemplaire à l'extérieur avec, je crois, 7 victoires. Hein. C'est la quatrième équipe de la saison à l'extérieur pour l'instant. Les Toulousains qui essaient tout de même de pousser un petit peu, enfin, en cette fin de rencontre, encore quelques secondes avant le temps. Il sonnait à la tête de Dalinga, qui a fait une faute au passage, et c'est très justement sifflé par M. Ballanger. Et alors qu'il était seul à 2-3 mètres et que le Montpellierain qui était à côté de lui reste seul sous les sifflets du public pour gagner quelques secondes supplémentaires, quelques minutes supplémentaires, alors que je n'ai pas vu le temps additionnel, je ne sais pas si vous l'avez quelque part, à moins qu'il
n'ait
pas été affiché.
Ah, nous, on ne l'a pas encore eu. Mais...
Non, mais je ne l'ai pas vu affiché.
Alors Spencer, à la réalisation, me dit une minute peut-être.
Ah, une minute.
Alors 7.
Bon, ah, 7.
Ah oui, bah, oui, non.
Donc, vous savez, il est anglais, les Anglais, le 1, le 7, non, tout
je pense,
ça.
Je pense que Spencer vieillit surtout et qu'il est plus
pas cher
moins bien.
Payé la minute, hein, franchement.
Pourtant, c'est un Fergie time, là, 7 minutes.
7 minutes.
J'aurais dû le voir.
Et on évoquait les difficultés à domicile de Toulouse, et effectivement, c'est peu de le dire, hein, seulement 3 matchs cette saison au Stadium. En revanche, ce résultat est en train de confirmer les bonnes dispositions à l'extérieur du moment de Montpellier. Hein. Ouais. 4e victoire sur les 5 derniers déplacements, c'est quand même quelque chose de...
Oui, eux, c'est la Mosson, le problème de Montpellier, clairement.
Ouais, c'est une équipe comme certaines équipes de transition et qui préfère jouer dans ces conditions-là et à l'extérieur, effectivement, souvent, les Montpelliérains jouent avec beaucoup plus de justesse, alors que là, on essaie de gagner du temps, mais finalement ils le perdent, ce ballon, les Montpelliérains, et la relance timide de Costant, ils ne sentent pas vraiment comme s'ils avaient envie de remporter ce match ou de revenir en tout cas à égalité. Là, c'est Go qui part à grandes enjambées, il est passé entre deux défenseurs, il revient sur son pied droit chercher la balle complètement décalé sur la droite, c'est Babika, le centre de Babika qui revient sur Go, cette fois-ci pour Soiseau, on est dans la surface de réparation, une des dernières occasions peut-être pour les Toulousains de revenir au score, et le ballon qui est dégagé très très loin et qui file en touche. Non, finalement c'est Costa qui le récupère pour Spirins dans le rond central. Encore, allez, combien, 5 minutes de temps additionnel et toujours 2-1 pour Montpellier qui est certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine.
C'est un peu un hold-up d'ailleurs cette victoire de Montpellier sur ce qu'on a vu sur l'ensemble du match. Honnêtement, les Montpelliérains, ils ont quand même été plutôt dominés, Patrick, dans ce match.
Sur la première période, c'est clair, il n'y avait pas photo, mais sur la deuxième mi-temps, très franchement, bon, voilà.
Oui, non, c'était plus équilibré en seconde période, mais enfin, ils n'ont pas eu énormément d'occasions quand même, les Montpelliérains.
Ouais, ni même les Toulousains d'ailleurs, alors qu'il y a encore un joueur allongé au sol, et Michel Derzakarian qui lui demande de se relever, je crois, ce joueur, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est blessé, allez. Lève-toi parce que sinon tu vas prendre un carton peut-être. Je ne sais pas ce qu'il dit l'entraîneur, le coach Hérolté. Bon voilà qui est fait. C'était pas bien grave, mais le temps passe et le temps s'est écoulé. Une minute de plus à mon avis au moins. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 4 minutes de temps additionnel pour que les Toulousains arrivent peut-être à aller accrocher un résultat nul, ce qui, comme vous le disiez,
serait plus logique.
Plus logique et mérité. Parce que sur l'ensemble du match, ce sont les Toulousains qui ont fait l'essentiel du jeu. Notamment en première période, avec quand même 2 frappes sur les poteaux transversales, des arrêts superbes de Dimitri Berthaud. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont longtemps dominé avant de perdre un joueur également, avant l'expulsion de Nicolas Essen. Ce qui fait que les deux équipes sont à 10 contre 10. Le jeu est équilibré et surtout très, très haché. Encore un joueur qui reste seul. Là, cette fois-ci, ça sent un petit peu quand même le cinéma répétition.
On se faisait la réflexion avec Karine Gaï tout à l'heure. Il y a du monde, hein. Enfin, c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant à Toulouse, mais c'est vrai que là de voir le stade copieusement garni, ça fait plaisir.
Et puis surtout pour un match à 19h, c'est quand même pas un horaire qui est très pratique pour tout le monde.
Surtout 19h en vendredi, c'est ça. Ouais.
Et à Toulouse, ça fait des années que maintenant au stadium, il y a du monde.
24 000 spectateurs étaient annoncés ce soir. Bon, c'est pas rempli, hein. C'est-à-dire que la tribune que vous ne voyez
pas.
C'est pas
rempli, mais quand même, il y a du monde.
Mais la tribune que vous ne voyez pas, celle où je suis installé, est aux 3/4 vide. Hein. Voilà. Oui. Ce qui explique les 24 000 spectateurs.
Ça reste quand même 3 fois plus qu'à la Mosson.
Ah oui, à ça, par rapport à la Mosson, il n'y a pas photo. Mais non, mais je voulais dire que c'est l'une des affluences les plus faibles peut-être de la saison pour le TFC, compte tenu effectivement de l'horaire de ce match. Et le stade, par contre, il sera archi-comble là, dans 48 heures, puisqu'il y a eu plus de 60 000 demandes pour la demi-finale du Champions Cup de rugby.
Voilà. Patrick, je sais que ça va faire bondir pas mal de gens, mais... Est-ce qu'on a évoqué en amont de ce match le côté derby avec l'élargissement des régions
ça énerve Xavier, ça, il a raison. Derby, je le rejoins.
Occitanie, comme certains m'ont parlé.
Attention, Rouen, Dalinga qui a frôlé ce ballon, qui était revenu à hauteur de quasiment de ligne de but. Et finalement, ils s'en sortent, les Montpelliérains, ils vont repartir en compte. Donc, le derby, très franchement, on n'en parle pas, parce qu'il n'existait pas avant qu'il y ait une région Occitanie. Exactement. Et le derby, c'est à Toulouse, c'est effectivement avec les Girondins de Bordeaux, et pas du tout avec Montpellier. Même s'il y a quelques antagonismes qui ont été créés depuis quelques temps, qu'il y a un nouveau carton pour un Montpelliérain, qui ont été créés avec, entre supporters, mais comme en plus les supporters montpelliérains ne sont pas là ce soir, ce qu'on regrettait d'ailleurs les supporters toulousains qui ont fait savoir cette semaine, parce qu'un match de foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses adversaires, y compris ses supporters, quand on est supporter du TFC, on aime bien que ce parcage visiteur soit rempli, parce que ça met une ambiance supplémentaire. Et il y a encore un joueur au sol, après le carton, c'est pas, il va falloir que ce match se termine assez rapidement, parce qu'il se passe presque rien. Et le jeu est arrêté.
Oui, dans ces cas-là, les 7 minutes, tu te dis autant raccourcir, quoi.
Bah, je sais pas. Ou alors, quand on est toulousain, évidemment, mais on les sent pas non plus désespérés pas... de perdre ce match une nouvelle fois. Voilà. Enfin, je pense que les supporters toulousains ont commencé par être en colère avant ce match. Il y a eu beaucoup de banderoles pour dénoncer l'augmentation tarifaire déraisonnée. C'était l'une des banderoles affichées pour la saison prochaine, avec une augmentation moyenne de 30%. Des places d'abonnement ici au TFC, qui avait enregistré un record cette année de 17 000 abonnements. Hein, pour Toulouse, c'est un record. Si ça continue avec cette hauteur et ce tarif, pas sûr en tout cas qu'on arrive au même score.
Allez, Kouyaté blessé. Le joueur, hein.
Pardon ?
Kouyaté blessé.
Kouyaté blessé.
Kouyaté blessé, il est sorti.
Ouais, c'est Stagnan qui est entré, hein, il me semble.
Je sais pas comment ils vont finir la saison, ils Montpellier, entre les expulsés, les suspendus, les blessés. Bon, ils seront maintenus, donc ils s'en fichent, mais.
Kouyaté, il a pris un très très mauvais coup de Dalinga sur un duel il y a quelques secondes simplement, où Dalinga lui a mis un bon petit coup de coude dans les côtes, là, sur le côté.
Il a fait beaucoup de fautes, Dalinga, cette deuxième mi-temps, hein, et sans prendre de jaune, je crois.
Hein, exactement.
Il aurait peut-être mérité pour l'ensemble de son œuvre un petit carton. Allez, Kamanzik peut-être pouvoir frapper, qui préfère le centre du pied gauche. C'est pas fini, le temps additionnel, lui, il est terminé à mon avis depuis déjà quelques temps, mais il y a une rallonge très justement accordée par l'arbitre de cette rencontre, et Toulouse est tout proche de la surface de réparation, mais avec beaucoup de difficultés peut-être à la frappe à venir. Non, finalement on a cherché dans cet axe qui était totalement bouché un partenaire, en l'occurrence Sissoko, qui a été contré. Là c'est un 3 contre 2 pour Ferry, encore une fois Ferry qui est légèrement bousculé, finalement qui perd ce ballon, il n'y aura rien, estime l'arbitre de ce match. La relance toulousaine, peut-être la dernière de ce match, alors que Ferry réclamait un pénalty après avoir été contré par le défenseur toulousain. Kamanzi sur le côté droit, encouragé par les 24 000 supporters toulousains. Kamanzi, allez, centre, il a pris beaucoup trop de temps, il en fait
faut
beaucoup
siffler,
trop,
monsieur l'arbitre, hein.
Et il n'a toujours pas sifflé. C'est une touche à suivre en faveur des Montpelliérains dans le camp de Montpellier. Et là, il reste, à mon avis, peut-être 30 secondes, mais pas beaucoup plus. Est-ce qu'il y aura un arbitrage vidéo? Parce que je vois qu'il met sa main tout près de son oreille, et qu'il a pratiqué de la sorte comme ça depuis le début de ce match, pour vraiment revisionner et avoir un vrai arbitrage vidéo, comme ça existe en rugby d'ailleurs. On prend son temps, alors évidemment ça hache un petit peu le jeu, si ça se produit 7-8 fois dans une rencontre. Et comme le temps additionnel, il est calculé pendant le match, mais très aléatoire en foot, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Je crois qu'il est encore en train de discuter, puisque le jeu n'a pas repris, pour savoir s'il y a eu faute sur Ferry. Est-ce que vous avez vu les images?
Il n'y a rien du tout.
Alors, franchement, ça fait 98 minutes qu'on joue.
Il
n'y
a rien du tout, mais il va quand même aller voir son écran. Voilà, c'est arbitrage vidéo. Il a dit, écoute, prends la décision, parce que nous,
alors,
on ne sait pas.
On fait un petit coucou à Samuel Duhamel, parce que les deux équipes rentrent sur la pelouse à Bollard, c'est ça, Sam?
Exactement, on entend la Marseillaise lensoise. Grosse ambiance pour cette affiche, les 22 acteurs qui viennent d'effectuer leur entrée sur la pelouse.
On viendra te voir, évidemment, pour le coup d'envoi, juste après la pub et les infos. En attendant, on va attendre la fin du match quand même entre Toulouse et Montpellier.
C'est terrible, parce que Ferry, il est en train d'expliquer Monsieur Boulanger qui passe devant, donc il ne peut plus le toucher, ce qui est le cas, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement de contact, quoi. Pour moi, il n'y a rien.
Il n'y a pas de pénalty, le jeu va pouvoir reprendre avec cette remise en jeu en touche.
Mais quelle perte de temps.
Et à mon avis, 30 secondes
peut-être. Il ne veut pas rentrer, hein, Romain veut rester sur le terrain.
Oui, il applique le règlement, le temps additionnel, et tous ces arrêts de jeu durant, y compris ce temps additionnel, c'est 7 minutes. Voilà, là effectivement il siffle la fin de cette rencontre, sanctionné par ce score de 2-1 pour Montpellier face à Toulouse. Savanier et Fayad contre un but de Dalinga, avec deux équipes qui ont chacune terminé cette rencontre à 10 contre 10.
Et Montpellier est officiellement sauvé et jouera la saison prochaine dans l'élite après une saison un petit peu chaotique qui avait très bien démarré et qui s'est poursuivie de façon plus délicate. Merci Patrick Hisson. On attend les réactions des deux équipes pour la mi-temps de Lens-Lorient. À tout à l'heure mon Patrick.
À tout à l'heure.
Et merci beaucoup pour avoir fait cette victoire de Montpellier 2-1 à Toulouse.
RTL
20h58. Avant le coup d'envoi de Lens-Lorient, toute l'actualité avec vous ce soir, Charles Ducrot.
Bonsoir. Un jeune homme de 18 ans tué à l'arme blanche à Bordeaux. Cela s'est passé dans le quartier des Aubiers, au nord de la ville. La victime était connue pour des délits de droit commun, selon la police. Pour l'heure, il n'y a toujours pas eu d'interpellation. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir. Les organisations lycéennes appellent à rejoindre la mobilisation étudiante pour Gaza avec le blocage des lycées dès lundi, annonce dans un communiqué de l'USL, l'Union syndicale lycéenne. Il réclame un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Le trafic toujours perturbé sur la ligne du RERC. Une voiture est tombée sur les voies dans l'après-midi au niveau de Choisy-le-Roi. Elle a été percutée par un train. Pas de blessés à bord du train, mais le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans, a été évacué par les pompiers en urgence absolue. 150 000, c'est le nombre de soldats russes morts au combat depuis le début de la guerre en Ukraine. Chiffre communiqué par Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. C'est moins que les 180 000 estimés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin de l'hiver. Côté ukrainien, les pertes sur